La mer Égée. Une flotte immense fend l'écume. Une flotte comme jamais personne n'en vit, ni mortel, ni dieu. Elle porte la plus grande armée jamais rassemblée, l'armée des Grecs. Les guerriers les plus redoutables sont réunis, ainsi que les rois de toute la Grèce. Achille, Ulysse, Agamemnon, Ménélas et même le vieux Nestor. Les boucliers scintillent sous l'éclat du soleil. Déjà, on entend la terrible rumeur de la bataille. Cette formidable armée fait route vers Troie, la cité aux hautes murailles. Troie, la cité du roi Priam, défendue par ses deux fils, Hector et Paris. Paris, celui par qui tout est arrivé. La voix de Zeus fait trembler l'Olympe. Elle résonne dans le palais des dieux, terrible, assourdissante. Zeus exige de savoir qui est responsable de cet embrasement. Zeus est le dieu des dieux. Il commande à tous. Ceux qui sont et ceux qui furent. Jadis, au terme d'un combat effroyable qui dura des années, il a anéanti les dieux rebelles. Et tous ceux qui se sont crus plus rusés que lui sont désormais enfermés dans le Tartare, la région la plus profonde des enfers. Ce qu'il désire plus que tout, c'est la paix, chez les hommes comme chez les dieux. Zeus a convoqué tous les dieux de l'Olympe. Ils sont 12. Poséidon, son frère aîné, règne sur les mers et les océans. Hadès, le cadet, est le souverain des enfers. Son fils Apollon est le dieu de la lumière. Sa fille Athéna est la déesse de la ruse et de la raison. Ses autres fils, Arès et Hermès, sont respectivement dieu de la guerre et dieu des voyageurs. Aphrodite, née de l'écume et du ciel, est déesse de l'amour et de la volupté. Tous ont juré allégeance à Zeus. Tous redoutent ses colères. Tous contestent son pouvoir. Zeus est furieux. Il brandit l'égide, cette arme redoutable qui déclenche le tonnerre et les éclairs, terrifie les mortels et les immortels. Il scrute chaque dieu. Il veut savoir qui est l'auteur de l'inévitable chaos qui se prépare à déferler sur le monde. Mais tous se taisent et baissent le regard. Soudain, Héra, l'épouse de Zeus, pointe son doigt vers Aphrodite. C'est elle qui est la cause du drame qui se prépare. Elle seule. Les autres déesses, qui n'ont jamais porté Aphrodite dans leur cœur, confirment. Depuis toujours, elles détestent cette déesse qui sème partout les graines de l'infidélité, prive d'amour les uns, rend les autres fous de passion. Et elle jalouse ses formes trop parfaites. Par le passé, Aphrodite avait provoqué un scandale sur l'Olympe. Elle avait séduit le dieu de la guerre, Arès, au nez et à la barbe de son légitime époux, Héphaïstos. Prise au piège, elle avait été bannie de l'Olympe. Et elle avait juré qu'un jour, elle se vengerait de cet affront. Oui, Aphrodite a déclenché cette guerre. Tout a commencé quelque temps plus tôt. Lorsque Paris, le fils du roi de Troie, menait l'un de ses nombreux troupeaux sur les pâturages du mont Ida. Ce jour-là, trois femmes viennent à sa rencontre. Elles sont toutes les trois d'une beauté à couper le souffle. Mais laquelle des trois est la plus belle? Voilà ce qu'elle demande au jeune Paris. Elle le somme de choisir. Paris est subjugué, mais surtout déconcerté. Il s'avoue incapable de trancher. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ces trois femmes sont trois déesses, Héra, Athéna et Aphrodite. Et que la veille, alors que les dieux étaient réunis pour festoyer, Eris, la déesse de la discorde, que nul n'avait conviée, Eris avait fait éruption et jeté sur la table une pomme. Une pomme d'or. Sur cette pomme figurait une curieuse inscription. Pour la plus belle. Tous les regards s'étaient naturellement tournés vers Aphrodite, car nul n'imaginait rivaliser avec la fulgurante beauté de la déesse de l'amour. Aphrodite s'apprêtait à se lever lorsque deux autres déesses se dressèrent pour saisir la pomme. Héra, sœur et épouse du roi des dieux, beauté froide mais éblouissante. Et Athéna, fille de Zeus, beauté violente mais étincelante. Aphrodite, Héra, Athéna. Des trois déesses, laquelle sera déclarée la plus belle? On demanda l'avis du maître de l'Olympe. Zeus, n'est-il pas fin connaisseur? Lui dont on ne compte plus les conquêtes. Elle est longue, la liste de celles qui ont succombé à ses charmes. Ou à ses sortilèges. Mais Zeus refusa d'arbitrer. Il connaît le tempérament frondeur et la haine réciproque que se vouent les trois déesses. Il se veut prudent, refuse de prendre parti. Il décide que le choix doit revenir à quelqu'un dont l'impartialité serait totale. Pourquoi pas un mortel ? Il choisit alors celui qui passe pour le cœur le plus pur de tous les mortels, le plus idéaliste d'entre eux, Paris, fils de Priam et d'Hécube, prince de Troie. La pomme d'or, devenue pour les dieux pomme de la discorde, sera donc déposée dans la main innocente d'un simple mortel. Héra, toise Paris, et parle ainsi. Paris, si tu me désignes comme la plus belle, je te donnerai un royaume comme nul mortel n'en a jamais possédé, et sur lequel tu régneras en seul maître. Tu seras le plus grand roi que la terre ait porté. Paris, ravi, s'apprête à désigner Héra. Mais aussitôt, Athéna s'interpose. Paris, si tu me désignes comme la plus belle, je te rendrai à jamais invincible au combat. Nulle épée ne te blessera, nul javelot ne te transpercera. Tes ennemis redouteront ton nom, et la victoire toujours sera tienne. Tu deviendras le plus grand héros que la terre ait porté. Paris, conquis, est sur le point de désigner Athéna. Lorsqu'Aphrodite, d'une voix enjôleuse, lui dit « Paris, si tu me désignes comme la plus belle, alors je t'offrirai la main de la plus belle femme que le monde ait jamais vue. Tu seras le plus grand amant que la terre ait porté. » Paris, sans hésiter, offre la pomme à Aphrodite. Aphrodite dénoue sa ceinture. C'est une ceinture au pouvoir magique qui rend irrésistible quiconque la porte. Elle l'offre à Paris. Quelque temps plus tard, le roi Priam envoie son fils Paris en mission auprès du roi de Sparte, le puissant Ménélas. Paris prend la mer et arrive dans la cité grecque. Mais une ombre le suit, celle d'Aphrodite. À Sparte, Ménélas accueille Paris avec la chaleur et le respect que l'on doit à un prince. Il l'invite à sa table, lui sert les plats les plus exquis, arrosés des meilleurs crus de Grèce. Sa femme est à ses côtés. Elle s'appelle Hélène. Hélène de Sparte. Elle est de toutes les créatures mortelles que la Terre ait comptées, la plus belle. Elle fut aussi la plus convoitée. Les princes de toutes les cités demandèrent sa main. Son père, Tindare, l'offrit à Ménélas en faisant prêter serment à tous les autres prétendants de leur porter secours, à elle et à son époux, quoi qu'il leur arrive. Ménélas annonce qu'il doit quitter Sparte pour quelques jours. Il n'a donc rien vu. Il n'a rien perçu des regards brûlants que s'échangent Hélène et Paris. La ceinture magique offerte par Aphrodite produit admirablement ses effets. Le soir même du départ de Ménélas, Paris adjure Hélène de tout quitter et de le suivre chez lui, à Troie, pour y devenir sa femme. Hélène n'offre aucune résistance. Elle est ensorcelée. Et Paris l'est aussi. Dans leur insouciance, entièrement livrés à leur passion, les deux amants n'imaginent pas un instant les terribles conséquences qui découleront de leur union. À son retour, Ménélas cherche son épouse. Il fouille chaque pièce, chaque parcelle de jardin, les cours de son palais, en vain. Il interroge les serviteurs, il menace. Personne n'ose lui dire la vérité. C'est une vieille servante qui, finalement, lui avoue que la belle Hélène s'est enfuie avec ce jeune prince que l'on avait si aimablement reçu. Le roi de Sparte laisse libre cours à sa colère. Pareil affront ne peut rester impuni. Ménélas part immédiatement pour Mycène. Là-bas règne le roi le plus respecté de toute la Grèce, Agamemnon, son frère, le roi des rois. Agamemnon a réussi à soumettre, par la force ou par la ruse, toutes les cités grecques. Toutes lui font allégeance et lui versent un tribut. Toutes, sauf une. Ménélas plaide sa cause auprès de son frère. Il a été humilié par le Troyen. Il exige réparation. Il faut lever une armée, partir en guerre contre Paris et ramener Hélène. Agamemnon écoute Ménélas avec attention. Mais il hésite. Certes, son frère est l'offensé. Mais c'est aussi un prince qu'il juge faible s'il n'a pas su retenir son épouse. Il est la risée de tous les autres princes grecs. Il y a offense, bien sûr. Mais Troie est puissante. C'est la plus riche, la plus opulente de toutes les cités de la terre, dit-on. Elle contrôle le passage qui mène vers l'Orient. Et ses fabuleuses richesses. La tentation est grande de s'en emparer, mais ses remparts sont inviolables. On dit qu'ils furent bâtis par les dieux Apollon et Poséidon en personne, et que nul ne peut les renverser. Une simple ambassade, envoyée à Troie pour réclamer réparation et ramener Hélène, devrait suffire à clore l'affaire. Le roi des rois hoche la tête. Il se fait tard il va réfléchir. Zeus a écouté attentivement Héra, qui vient d'accabler Aphrodite, affirmant que ses sortilèges sont seuls responsables de la guerre. Mais il n'y croit qu'à moitié. Il connaît Agamemnon. C'est un roi sage. Oui, une simple ambassade auprès du roi Priam aurait suffi à éviter cette guerre. Déplace-t-on des milliers d'hommes sur des milliers de navires dans le seul but de venger un mari trompé? Pour une seule femme, fut-elle la plus belle? Zeus pose sur Héra et Athéna un regard dans lequel grandit une pointe de soupçon. Aphrodite a sans nul doute usé de ses sortilèges pour remporter la pomme d'or. Mais Héra et Athéna n'ont pas dû pardonner l'affront, l'humiliation de ne pas avoir été choisie par le jeune prince. Comment ont-elles pu influencer Agamemnon et le convaincre de partir en guerre? La nuit est tombée sur le palais d'Agamemnon. Invisible aux yeux des mortels, Héra s'adresse à Athéna. Laisserons-nous un mortel humilier des déesses? Laisserons-nous Aphrodite nous narguer ainsi? Athéna écume de rage. Elle aussi entend venger cet affront, se venger de l'homme qui l'a commis. Et du dieu qui n'a rien fait pour l'empêcher, Zeus, rajoute Héra. Nous exciterons entre Grecs et Troyens une haine funeste jusqu'à ce que Paris meure d'une mort affligeante, décident les deux déesses. Athéna se penche alors sur Agamemnon. Elle murmure à son oreille. Songe à Troie, Agamemnon, la seule ville qui te résiste, la seule ville qui te défie. Sans Troie, l'empire que tu as créé est dérisoire. Écoute-moi, Agamemnon. Je suis le messager de Zeus. Il t'ordonne d'appeler aux armes tous les Grecs. L'heure est venue de t'emparer de la vaste cité des Troyens. Sa conquête sera l'apogée de ta gloire. Les dieux de l'Olympe n'ont plus sur ce point d'avis qui diverge. Tous se sont laissés fléchir à la prière d'Héra. Prends Troie et détruisant chaque muraille. Ainsi, tu entreras dans l'histoire. À l'aube, le roi de Mycène a pris sa décision. L'injure faite à Ménélas est une injure faite à la Grèce, affirme-t-il. Il faut sans tarder réparer l'outrage. Que l'on rassemble l'armée, la plus puissante de toutes les armées. Elle franchira les mers et anéantira Troie pour rendre Hélène à son légitime époux. Les uns après les autres, les rois de toute la Grèce répondent à l'appel de leur suzerain. Ils viennent de toutes les cités. Tous sont prêts à livrer bataille. Tous, sauf deux d'entre eux. Deux hommes dont le destin pourtant fera basculer cette histoire. Achille et Ulysse. Agamemnon, le roi des rois, a convaincu les principaux chefs grecs de le suivre vers Troie. Tous sont de grands rois. Ménélas, son frère, règne sur Sparte. Le vieux Nestor gouverne Pylos. Ajax le Grand est roi de Salamine. Idoménée, roi de Crète. Le jeune Diomède, roi d'Argos. Ulysse, roi d'Ithaque. Et Achille, roi de Phthie. Achille et Ulysse. À eux deux, ils vont devenir le fléau des Troyens. Et pourtant, de tous les rois de Grèce convoqués par Agamemnon, ce sont eux qui désirent le moins faire cette guerre. Ulysse n'a aucune envie de quitter son royaume, Ithaque. Et encore moins sa femme, Pénélope, et son fils, Télémaque, pour aller livrer une guerre au bout du monde. Mais il y a autre chose qui le retient. Une chose qui l'obsède comme un cauchemar. Jadis, un oracle lui a affirmé que le jour où il quitterait Ithaque, il n'y reviendrait que 20 ans plus tard, seul et pauvre. Ulysse a la ferme intention de duper Agamemnon pour ne pas répondre à son appel. Il n'est pas en manque de ressources. Ceux qui le connaissent l'ont surnommé l'homme aux mille ruses. Et c'est bien d'une de ces ruses dont il va se servir pour ne pas faire cette guerre. Ulysse se coiffe d'un bonnet de paysan et se rend sur une plage d'Ithaque. À une charrue, il attelle un âne et un bœuf. Puis, devant son entourage sidéré, il sème du sel à la place du blé et commence à labourer la plage. Pénélope, éplorée, présente Ulysse aux émissaires envoyés par Agamemnon pour l'escorter à la guerre. Regardez-le. Regardez ce qu'est devenu le fier Ulysse. Un fou, un pauvre fou. Les émissaires d'Agamemnon compatissent. En effet, comment le roi d'Ithaque pourrait-il servir à la tête de ses hommes, lui qui a perdu la raison? Ils sont sur le point de reprendre la mer, dépités, lorsque l'un d'entre eux les arrête. Il connaît la réputation du roi d'Ithaque. Quelque chose lui dit qu'il est en train de se jouer d'eux. Alors, d'un seul coup, il arrache le jeune Télémaque des bras de sa mère, dégaine son épée, se plante devant la charrue d'Ulysse et fait mine d'égorger l'enfant avant de le jeter sous le soc du laboureur. Ulysse stoppe tout net son attelage et se précipite au secours de son fils. Il est démasqué. Sa ruse est vantée. Ulysse n'a d'autre choix que de rallier l'armée d'Agamemnon. Le voilà donc à Mycène, avec ses hommes et auprès des autres rois, prêt à embarquer. Mais il manque encore un combattant, Achille. Achille. On peine à croire que ce jeune homme courageux, dont on dit partout que la force n'a pas d'égal sur cette terre, souhaite se dérober à la guerre voulue par Agamemnon. Quand on annonce à Agamemnon qu'Achille ne se joindra pas aux Grecs, Le roi des rois hausse les épaules. Il n'a cure de cet homme qu'il déteste. C'est un guerrier indiscipliné qui méprise depuis toujours son autorité. Ne manque jamais une occasion de lui rappeler publiquement sa cupidité et sa passion du pouvoir. De tous les rois de Grèce, Achille est celui qu'Agamemnon hait le plus. Mais il le faut aux côtés des Grecs, proteste le vieux Nestor. Achille est béni des dieux. Il est le plus grand de tous les guerriers. Sans lui, la victoire est impossible. À contre-cœur, Agamemnon envoie Ulysse à Phthi chercher Achille et son armée, les redoutables Myrmidons. Thétis, la mère d'Achille. Déesse de l'ancien temps. Une nymphe, très exactement, la fille du vieux de l'abîme. Aimée par Zeus, jadis, qui lui conserve toute sa tendresse. Et mariée, à la demande des dieux, à Pélée, le roi de Phthie, un mortel réputé pour sa sagesse et sa piété, qui fut autrefois l'un des marins partis à la conquête de la mythique Toison d'or. Thétis accueille Ulysse avec inquiétude, car elle aussi connaît les ruses du roi d'Ithaque. Et surtout, elle a en mémoire cette terrible prédiction qu'elle n'a jamais révélée à personne, pas même à son fils. Si Achille part pour Troie, il connaîtra la gloire. Son nom sera célébré jusqu'à la fin des temps. Mais la mort le fauchera dans l'éclat de sa jeunesse. S'il reste chez lui, en Grèce, il vivra longtemps, heureux, entouré et aimé de tous les siens. Mais lorsque les enfants de ses enfants auront disparu, tout le monde aura oublié son nom. Heureusement pour Thétis, à tous les arguments qu'Ulysse lui soumet, Achille répond par un non catégorique. Non, il n'est pas question d'aller se battre à Troie pour sauver l'honneur d'un mari cocu ou pour agrandir l'empire d'un roi qu'il méprise. Soulagé, Thétis prend son fils dans ses bras. Et tout à sa joie de le voir rester auprès d'elle, elle lui révèle le sort funeste auquel il a échappé. Achille est interloqué. Ainsi, il a donc le choix, mourir jeune, mais en héros, ou bien vieillir dans le confort et le bonheur, mais s'éteindre et rester anonyme parmi les anonymes, promis à l'oubli. Il réfléchit longuement. Puis il se tourne vers Ulysse. Sa décision est prise. Troie, la cité du roi Priam. Hector désigne son frère, Paris. Tout ce qui arrive à Troie est de sa faute, clame-t-il. Ses noces odieuses sont cause du grand malheur qui guette la cité. Hector vient de l'apprendre. Les Grecs ont mis sur pied la plus vaste armée que le monde ait connue. Ils sont en route. Ils s'apprêtent à débarquer sur les rivages de Troie. Hector, fils aîné du roi Priam. le rempart de Troie, le bouclier de la cité. Adulé par le peuple, il en reçoit des honneurs presque divins. Ses amis, comme ses ennemis, reconnaissent en lui un guerrier à la vaillance sans pareille. Mais aux remontrances de son frère, Paris oppose toujours les mêmes réponses. Troie est invincible, protégée par les dieux, et jamais la lance grecque ne pourra renverser la cité de Priam. Quant à lui, il est amoureux d'Hélène, il l'aime éperdument, et elle aussi. Rien ni personne ne les séparera. Hector fulmine. Son frère ne comprend donc rien à ce qui se joue. L'armée grecque ne vient pas seulement envahir Troie. Elle vient dévaster la ville qui depuis toujours résiste aux rêves d'Agamemnon. Un prince de Troie n'a pas le droit de se comporter avec une telle assurance, mêlée à tant de désinvolture. Lui-même est éperdument amoureux de son épouse, Andromaque. Mais il a toujours placé le salut de sa cité au-dessus de son bonheur personnel. Le vieux roi Priam est pris de vertige. Hécube, son épouse, se lève. Elle marche vers ses fils. Elle saisit la main d'Hector, puis celle de Paris, et les force à se joindre. Les deux frères y consentent sans que ni l'un ni l'autre n'approuve. Mais soudain, le visage d'Hécube se fige. Dans l'ombre, une silhouette surgit, drapée de noir. C'est Cassandre. Cassandre, fille d'Hécube et de Priam. À peine Cassandre s'est-elle avancée, que sa mère lui fait signe de se taire. Elle sait trop bien que tous les mots que cet enfant prononce sont porteurs de désastre et de mort. Depuis que Paris est revenu à Troie au bras d'Hélène, Cassandre ne cesse de répéter que cette union illégitime causera la perte de la cité. Cassandre possède, dit-elle, l'art de prédire l'avenir. Ce n'est pas faux. Quand il la vit, Apollon tomba passionnément amoureux de Cassandre. Il lui promit, si elle consentait à s'offrir à lui, de lui enseigner tous les dons secrets que seules les grandes prêtresses et les pythies qui savent deviner les volontés des dieux, sont autorisés à connaître. Cassandre accepta, et Apollon fit d'elle la plus experte dans l'art de prédire l'avenir. Mais aussi de formuler les oracles et de les interpréter. Mais une fois qu'elle fut instruite dans cet art, Cassandre n'accorda rien d'autre au dieu qu'un simple baiser, du bout des lèvres. Puis elle se moqua de sa naïveté et lui révéla qu'elle avait fait vœu de toujours demeurer vierge et vénérait depuis sa tendre enfance Hécate, la déesse de la virginité. Apollon connut à la fois le désespoir et la douleur. Pour se venger de la trahison de la belle Cassandre, il lui cracha dans la bouche. Cassandre aurait dû se méfier, car d'un simple crachat, Le dieu venait de lui retirer non pas le don de prophétie qu'il lui avait offert, mais le don de la persuasion. Ainsi, Cassandre était-elle désormais condamnée à prédire l'avenir, mais à n'être jamais crue par personne. La flotte grecque est au grand complet. Elle s'apprête à lever l'ancre. Des milliers de navires sont prêts à affronter les flots. La brise gonfle les voiles. C'est l'heure du départ. Mais soudain, comme par magie, les vents retombent. Plus le moindre souffle. Agamemnon redoute le pire. Ce calme n'a rien de naturel. Il faut consulter les dieux, au plus vite. Il est, parmi les Grecs, un devin qui sait interpréter les volontés des dieux. Calchas. Pour lui, ni le futur, ni le présent, ni le passé n'ont de secret. Calchas observe longuement le vol des oiseaux. Et ce qu'il annonce fait trembler tous les rois grecs. Une déesse s'oppose à leur départ. Artémis, fille de Zeus et sœur jumelle d'Apollon. Agamemnon s'emporte. Qui a osé offenser Artémis, la déesse de la chasse? C'est toi, répond Calchas. Et le devin rappelle à Agamemnon ce jour où, parti chasser, il avait croisé une biche magnifique. Longtemps, il l'avait pistée avant de lui décocher une flèche mortelle. Et de s'écrier avec l'orgueil du vainqueur, Artémis elle-même n'aurait su mieux faire. Celle que l'on surnomme la souveraine des animaux reçut cette vantardise comme un affront et comme une injure. Aujourd'hui, Artémis exige un acte de repentance. Cette biche était sa préférée. Agamemnon devra donc sacrifier sa préférée. Sa fille, Iphigénie. Le roi des rois est effondré. Jamais il n'y consentira. C'est l'unique condition pour que les vents soient avec les Grecs, réplique Calchas. Agamemnon est dévasté. Son frère, Ménélas, entre dans une colère noire. Il brûle d'impatience de récupérer Hélène, sa femme. Et il est soutenu par l'entière coalition des rois grecs, prêts pour la guerre. Que vaut une vie comparée à l'honneur d'un pays? Agamemnon refuse de céder. Le sacrifice qu'on veut lui imposer est inhumain. Il prie Zeus et tous les dieux. En vain. Il sait qu'on ne peut se dérober aux ordres de la déesse Artémis. Tous les Grecs connaissent son tempérament farouche et fier, cruel aussi. Depuis toujours, la déesse de la chasse se montre inflexible lorsqu'elle ou l'une de ses suivantes se sentent offensées. Et nombreux furent les hommes qu'elle décida de punir par le passé. Tous, ici, au moment de prendre la mer, se souviennent d'Actéon. Un des plus grands chasseurs de tous les temps. Mais le jour où Actéon surprit la déesse alors qu'elle se baignait nue dans un torrent, cette dernière se vengea de la plus effroyable manière. Elle transforma le malheureux Actéon en cerf. Les chiens du chasseur ne reconnurent pas leur maître et le dévorèrent vivant. Artémis assista à la scène sans intervenir. Agamemnon le sait, il est impossible de fléchir la déesse offensée. Alors, le roi des rois refoule ses larmes, maîtrise le tremblement de ses mains et finit par accepter la décision des dieux. Ulysse, atterré par le sacrifice qu'un père s'apprête à commettre, suggère à Agamemnon que l'on fasse croire à Iphigénie que de sa soumission au mariage dépend le sort des Grecs. Cela adoucira son destin. Il suffit de prétendre qu'Achille a posé une condition pour suivre l'armée grecque, épouser Iphigénie. La jeune fille consent et n'oppose aucune résistance. Elle obéira aux vœux de son père et épousera Achille si cela permet à l'armée des Grecs de compter dans ses rangs le plus glorieux des guerriers. Le mariage aura donc lieu. Et comme l'exige la coutume, il doit débuter par un sacrifice. Iphigénie, confiante, marche vers l'autel, guidée par Agamemnon. Le grand prêtre l'attend, impassible. Iphigénie croise alors le regard de son père. Et dans ce regard, elle peut lire la terreur et l'effroi. Le grand prêtre se penche sur la jeune fille. Le poignard s'abat. Le vent se lève. Là-haut, sur l'Olympe, les dieux ont tout vu. Désormais, la guerre est inévitable. Et chacun a choisi son camp. Apollon a fondé Troie. Il en est le protecteur. Il saisit son arc et son carquois et il cingle vers la cité de Priam. Artémis a tenu son serment et libéré les vents qui portent l'armée grecque, mais en toute chose, elle soutient son frère. Elle prend le parti d'Apollon et des Troyens. Aphrodite lui emboîte le pas. Elle entend protéger l'idylle entre Hélène et Paris, dont elle a assuré le succès. Héra et Athéna, elles, ont déjà pris place aux côtés d'Agamemnon et des rois grecs. Poséidon et Arès hésitent encore. Sans doute, à leur habitude, ils oscilleront d'un camp à l'autre. Le vent s'est levé. L'armée des Grecs s'élance vers Troie. Dix ans que l'armée grecque est figée sur ce rivage. 10 ans que 3 résistent. Les assauts les plus rudes se sont brisés au pied de ces murailles. Inexorablement. Les soldats grecs ont attaqué et pillé toutes les cités alentour, toutes celles qui avaient juré allégeance à Troie. Mais depuis quelques jours, voilà qu'une mystérieuse maladie dévaste les rangs grecs. Les guerriers s'écroulent. C'est l'hécatombe. Achille pénètre sous la tente d'Agamemnon, où tous les rois grecs sont assemblés. Ajax, Ménélas, Ulysse, Nestor et les autres. Le devin Calchas l'accompagne. Cela fait bien longtemps que l'homme qui lit dans la paume des dieux n'est pas apparu au conseil d'Agamemnon. Depuis qu'il a condamné la jeune Iphigénie pour satisfaire la déesse Artémis, et obtenir les vents favorables aux Grecs. Les Grecs qui, aujourd'hui, cherchent à comprendre pour quelles raisons un nouveau fléau s'abat sur leur armée. Depuis ce jour, lorsque Calchas s'adresse au roi, chacun tremble et redoute le pire. Cette fois, le devin désigne une jeune femme. Elle est allongée dans un coin de la tente. Tous reconnaissent Chryséis, la fille du grand prêtre d'Apollon. Tous se souviennent qu'elle a été enlevée lors d'un raid contre une ville voisine de Troie. Et qu'au moment de partager le butin, elle a été offerte à Agamemnon. Quelques jours plus tard, le père de Chryséis s'est présenté devant Agamemnon, les bras chargés d'offrandes. Et il l'a supplié de lui rendre son enfant. Agamemnon, sèchement, a refusé. Et il a renvoyé le malheureux avec tout son mépris. Le grand prêtre est reparti. Comme le font tous les humains lorsque le désespoir les saisit, il a sollicité l'aide des dieux. Ou plutôt, d'un dieu. Apollon. Dont il est le très fidèle serviteur. Et Apollon l'a entendu. Le dieu de la lumière s'est précipité vers la plaine de Troie. Et il a décoché ses flèches porteuses de mort sur tous les guerriers grecs. Calchas le devin sait tout cela, et il le dit au roi grec, effaré. Il ajoute même que tant que Chryséis ne sera pas rendu à son père, Apollon et les Caires, ces divinités infernales qui hantent les champs de bataille et s'abreuvent du sang des mourants, ne laisseront pas en vie un seul soldat grec. » les rois se tournent vers Agamemnon. Leur chef va-t-il persister dans son refus de rendre Chryséis à son père ? Agamemnon se lève. Une noire colère emplit sa poitrine. Il fixe Calchas le devin. Il maudit ce vieillard qui l'a déjà privé de sa fille, Iphigénie, et qui entend lui soustraire désormais cette jeune beauté, Chryséis. Car Agamemnon s'est mis à aimer Chryséis, plus que sa propre épouse, la reine Clytemnestre. Il imagine déjà qu'une fois la guerre terminée, Chryséis l'accompagnera chez lui, à Mycène, et remplacera Clytemnestre dans son lit, comme sur le trône, jusqu'à ce qu'elle vieillisse à ses côtés. Il aimerait dire à ses hommes, ses compagnons, qu'il ne la rendra jamais. Et peu importe que Troie ne soit pas conquise, peu importe Hélène et son cocu de mari. Puis il pense aux morts grecs. Ces milliers d'âmes qui, depuis 10 ans, espèrent une revanche. Agamemnon baisse les yeux. Il garde le silence. Au même moment, à Troie, un autre affrontement se prépare. Hector fait irruption dans la chambre d'Hélène et de Paris. Il cherche son frère. Paris n'est pas là. La belle Hélène n'a guère eu l'occasion, au cours de toutes ces années, d'être seule en tête-à-tête avec Hector. Le frère de Paris la fuit. Il la tient pour responsable des malheurs qui se sont abattus sur Troie. Hélène le sait. Elle veut lui dire qu'elle le comprend, qu'elle-même ne cesse de se blâmer, qu'elle a été ensorcelée, envoûtée, que si elle s'était doutée, ne serait-ce qu'un seul instant, des conséquences de ses actes, jamais elle ne se serait donnée au beau Paris. Mais Hector l'interrompt brutalement. Maintenant, elle sait. Pour que cesse ce siège interminable, il suffirait qu'elle quitte Troie. Qu'elle rentre chez elle et retrouve son époux légitime, Ménélas. Hélène soutient le regard d'Hector. Elle sait que si elle fait cela, c'est la mort qui l'attend. Jamais Ménélas ne lui pardonnera. Il la tuera de ses propres mains. Et pour autant, il n'est pas sûr que les Grecs épargnent Troie. Paris entre dans la pièce. Il rejoint Hélène et la prend dans ses bras. Faut-il qu'il explique une nouvelle fois à son frère Hector qu'il défendra sa cité, mais ne laissera jamais Hélène quitter Troie ? Hector sait qu'il ne raisonnera pas son frère. Il rejoint les soldats troyens, prêts pour la bataille, prêts à profiter de l'avantage décisif que le dieu Apollon, outragé par les Grecs, est en train de leur offrir. Agamemnon vient d'écouter les conseils de ses guerriers. Tous lui demandent de rendre la fille du grand prêtre d'Apollon, afin que cesse la colère du dieu. L'homme qui suit les dieux le favorisent. Agamemnon enrage. Le vieux Nestor lui fait valoir que le salut de son peuple vaut bien une fille, fût-elle aussi belle que Chryséis. Ulysse abonde en ce sens, tout comme Diomède et Ajax, Ménélas et Achille. Soit. Il en sera ainsi. Il rendra Chryséis à son père pour que prenne fin le courroux du dieu Apollon. Mais c'est son butin qu'on lui enlève. Or, plus que tout autre, il a droit à sa part. Il est impensable que le roi des rois demeure seul privé de ce privilège. Agamemnon exige une compensation. Les rois approuvent ce qu'il voudra, pourvu que cesse l'hécatombe. Alors, Agamemnon fixe Achille. Lui aussi a reçu en butin une jeune femme ravissante. Elle s'appelle Briseis. Qu'il la cède à Agamemnon, et alors le roi des rois rendra Chryséis à son père. À peine Agamemnon a-t-il prononcé ces mots qu'Achille saisit son épée, prêt à trancher la gorge du roi des rois. Les chefs grecs se figent. Même les dieux, là-haut, retiennent leur souffle. Mais au moment où la lame va jaillir de son fourreau, une force impérieuse la retient. Athéna a surgi. Athéna, invisible aux yeux de tous, sauf d'Achille. La déesse emprisonne le bras du héros. Elle lui murmure à l'oreille que c'est Héra, la déesse au bras blanc, qui l'envoie. Il sait combien d'un amour égal il est aimé et protégé par ces deux divinités. La mort d'Agamemnon ruinerait toutes les chances de succès des Grecs. Elle signerait la victoire de Troie. Achille doit conserver son calme, l'épée restée dans son fourreau. Il sera vengé. Athéna le lui promet. Alors la main d'Achille quitte le pommeau de sa redoutable épée. Athéna se retire. Achille s'enflamme contre Agamemnon. Il le traite de tous les noms. Profiteur, misérable, incapable, sac à vin. Il rappelle que c'est lui, Achille, qui vole de victoire en victoire depuis toutes ces années. Agamemnon reste de marbre. Achille s'empare alors du sceptre en bois clouté d'or que les Grecs ont l'habitude de brandir lorsqu'ils proclament les serments les plus graves. Devant tous les rois assemblés autour d'Agamemnon, il déclare qu'il cédera Briseis au roi des rois, mais que désormais, lui et ses myrmidons, ces terribles guerriers qui terrorisent les Troyens, se retirent du combat. La guerre de Troie se poursuivra, mais sans Achille. Son bouclier d'or ne jettera plus ses feux sur les remparts de la cité de Priam. On ne verra plus le héros sur le champ de bataille. Quant à Agamemnon, Achille en fait serment, il périra sous les coups des Troyens, après avoir vu tomber ses hommes, les uns après les autres. « L'aube s'est levée. Deux hommes se présentent devant la tente d'Achille, où les accueille Patrocle, le cousin d'Achille. Ils sont chargés par Agamemnon d'emmener Briséis. Achille ne leur reproche rien. Sa colère est dirigée contre Agamemnon. Un jour viendra où le roi de Mycène devra payer pour cette humiliation. À contre-cœur, Patrocle prend doucement Briséis par le bras et l'entraîne hors de la tente. La jeune femme jette un dernier regard à Achille et part, escortée par les émissaires d'Agamemnon. Achille est fou de rage. Il rumine la décision d'Agamemnon, à laquelle il a dû consentir. On lui a volé Briséis. C'est un abus de pouvoir, une injustice, une marque de mépris et de déshonneur. Rien ne calme sa fureur. Il a interdit à ses hommes, désormais, de prendre part au combat. Il s'enferme sous sa tente. Là, il implore sa mère, la nymphe Thétis. Thétis a de si grands pouvoirs. Laissera-t-elle son fils ainsi bafoué par le roi des rois ? Thétis, la mère d'Achille, n'a guère l'habitude de se rendre sur l'Olympe. Zeus sait qu'elle viendra ce soir. Il l'attend, assis au bord de son lit. Il a sa tête des mauvais jours, celle qui dit son désarroi et son irritation. Avant même qu'il n'ait le temps de réagir, Thétis se jette à ses pieds. Elle le supplie et plaide la cause de son fils. Achille a été humilié. Il ne mérite pas un tel affront, lui, le plus valeureux des guerriers grecs, qui toujours a été fidèle à Zeus. Zeus ne peut rien refuser à Thétis. Et Thétis le sait. Il fut un temps, bien avant que les hommes ne viennent au monde, où Zeus, Poséidon, Hadès et tous les autres dieux courtisaient la nymphe Thétis. Des créatures les plus désirables qui peuplaient cette terre, elle était celle que Zeus voulait le plus ardemment. Mais un oracle avait prévenu le maître de l'Olympe. S'il lui prenait l'envie de s'unir à Thétis, alors un enfant naîtrait, qui deviendrait plus puissant et plus terrible que son père. Zeus renonça. Comme tous les autres dieux, effrayés par la perspective d'être un jour déchus par leur propre progéniture. Et Thétis partit vivre seul, recluse, au fond de l'océan. Zeus n'a jamais cessé de l'aimer. C'est pour lui éviter la peine de vivre dans la solitude pendant l'éternité qu'il lui offrit en mariage un mortel aux grandes qualités. Pélée, qui avait participé à l'expédition de la Toison d'or aux côtés de Jason et qui avait gagné la confiance des puissants centaures que tous les mortels redoutent. De l'union entre Thétis et Pélée naquit Achille, le puissant, le divin, sur qui Zeus veille depuis l'enfance. Ainsi Zeus ne s'est-il pas opposé à Thétis lorsque cette dernière mit tout en œuvre pour rendre son fils invincible parmi les mortels. Une nuit, elle descendit jusqu'aux rives du Styx, le fleuve des enfers. et plongea le jeune Achille dans les flots. L'eau du Styx a le pouvoir de rendre invulnérable. Thétis sait que Zeus lui garde un amour qui jamais ne se réalisera. S'il l'aime encore, alors qu'il protège son fils, Achille, et veille à ce que les Grecs le traitent avec respect, et non en lui confisquant le butin justement gagné au combat. Zeus écoute la supplique de Thétis. Voilà qui complique considérablement ses plans. Depuis 10 ans, Zeus refuse de prendre parti. Il aime et blâme à part égale Grecs et Troyens. Le dieu des dieux se veut le père de tous les hommes. Aucun camp ne l'a d'ailleurs outragé. Mais cette guerre entre Grecs et Troyens est devenue un conflit entre les dieux. S'il aide les Troyens, alors son épouse Héra et sa fille Athéna ne lui pardonneront jamais. S'il aide les Grecs, son fils Apollon et sa fille Artémis refuseront son verdict. Mais Thétis est là, suppliante, belle encore. Thétis demande à Zeus de prêter sa force aux Troyens, jusqu'au jour où les Grecs n'auront plus d'autre choix que de rappeler Achille parmi eux. Et pour cela, devront lui rendre sa captive, et par là même, l'estime qui lui est due. Et puis, dit-elle à Zeus, Achille est l'enfant qu'il n'a pas eu. Après un long moment, le maître de l'Olympe se relève. Il a décidé. Il ne souhaite pas l'échec des Grecs, mais rendra Achille son tribut. Il prendra donc le parti des Troyens, de façon discrète, afin que nul chez les dieux ne s'en aperçoive. Il conçoit un stratagème. Il fera croire aux Grecs qu'il les soutient pour mieux les entraîner vers leur perte. À la nuit tombée, Zeus envoie le rêve pernicieux vers les bateaux légers d'Agamemnon. Le roi des rois est endormi sous sa tente. Le rêve lui annonce que l'heure de son triomphe a sonné, que Zeus, en personne, a décidé de lui accorder la gloire. Dès l'aube, il pourra lancer ses troupes à la conquête de la cité du roi Priam. Ignorant dans quel piège, le maître de l'Olympe vient de l'attirer. L'armée des Grecs déferle sur les remparts de Troie. Agamemnon, le roi des rois, l'a vu en rêve. La cité de Priam sera prise aujourd'hui. Ce rêve est un message des dieux et il a ranimé le courage de ses hommes. Qu'importe si le plus puissant des Grecs, Achille, s'est retiré sous sa tente. Zeus et les Olympiens ont décidé d'offrir la victoire à Agamemnon. En face, les Troyens, commandés par Hector et Paris, s'apprêtaient à lancer l'assaut contre ces Grecs dont ils savent qu'ils sont désormais privés de celui qu'ils considèrent comme leur fléau. Achille était pour Troie le désastre suprême. Les deux armées s'élancent l'une contre l'autre. Tous sont certains d'emporter la victoire. Le choc est terrible. Les javelots fendent l'air. Les épées se fracassent contre les boucliers. Les corps roulent dans la poussière. Des cris d'une sauvagerie inouïe montent jusqu'au ciel. Sur l'Olympe, les dieux n'ont rien perdu de la scène qui se joue au pied des murailles de Troie. Héra et Athéna sont sidérés. Agamemnon a-t-il perdu la tête ? Il court à sa perte. Quelle folie l'a fait se précipiter contre les troupes ennemies, alors que depuis des jours, les Grecs sont affaiblis par les flèches d'Apollon et que leur principal guerrier, Achille, s'est calfeutré sous sa tente. Héra et Athéna s'apprêtent à quitter l'Olympe, à s'élancer au secours de leurs héros, les Grecs. Apollon, Artémis et Aphrodite bandent leurs arcs, prêts à secourir les Troyens. Mais Zeus les arrête d'un geste impérieux. Il interdit désormais aux dieux de se mêler du combat des hommes. Mieux, il leur commande d'assister, depuis les hauteurs de l'Olympe, à cette joute qui, pour le moment, voit Grecs et Troyens s'anéantir les uns les autres, sans qu'aucun des deux camps ne l'emporte. Mais soudain, Zeus lui-même marque un mouvement de surprise. Car deux hommes viennent de se reconnaître au cœur du combat. Autour d'eux, le silence se fait. Tout comme les dieux, les guerriers regardent ces deux-là se défier. Ménélas fait face à Paris. Ménélas ne dit rien. La rage monte en son cœur. Il avance d'un pas lourd vers ce jeune homme qui vient vers lui sans trembler, peau de panthère jetée sur l'épaule, arc en bandoulière, épée à la main. Alors Hector s'interpose. Face au redoutable Ménélas, élevé pour la guerre, son jeune frère n'a aucune chance. Mais Paris ne le laisse pas parler. Il désigne les cadavres autour d'eux. Les blessés qui agonisent, la terre de Troie gorgée de sang. Afin d'épargner des vies innocentes, il affrontera Ménélas en combat singulier. Après tout, c'est une querelle entre deux, l'époux délaissé et l'amant choisi. Celui qui remportera la victoire remportera tous les trésors et conduira Hélène chez lui. Hector lève les yeux au ciel. Encore Hélène. Son frère n'a-t-il donc pas compris qu'Hélène n'est qu'un prétexte ? Il accable Paris. Il ne voit qu'Hélène, ne pense qu'à Hélène, ne vit que pour Hélène. Alors que c'est la cité troyenne qui est la cible de l'assaut des Grecs. mais déjà, Agamemnon les a rejoints. Il sourit et accepte la proposition de Paris. Si Paris vient à tuer Ménélas, qu'il garde la belle Hélène et tous les trésors des Grecs. Ceux-ci reprendront la mer et rentreront chez eux. Mais si Ménélas triomphe et tue Paris, alors les Troyens devront rendre Hélène et payer de tous leurs trésors les âmes des guerriers grecs venus venger l'honneur du vainqueur. Paris et Ménélas acceptent. Hector et Ulysse lancent les dés vers le ciel. Le résultat décidera lequel, du grec ou du troyen, portera le premier coup de javelot. C'est Paris que le sort favorise. Dans les deux camps règne un silence absolu. D'un côté, l'armée troyenne, veillée depuis les hautes murailles par le roi Priam. De l'autre, l'armée grecque, devant laquelle se tient le roi des rois, Agamemnon. Les dieux, sur l'Olympe, retiennent leur souffle. Paris vise son adversaire et lance son javelot. Ménélas ricane. Il tient sa proie. À son tour, il lance sa pique. Ménélas, déchaîné, se rue sur son ennemi. Paris est vaincu. Les Grecs, unis dans la même ferveur, acclament Ménélas. Ils exultent, car avec la mort de Paris, la guerre de Troie est terminée. Ils vont enfin pouvoir rentrer chez eux. Paris est en sang. Ménélas le laboure de coups. Rien n'entrave sa colère. Mais soudain, une brume venue de nulle part enveloppe les deux combattants. Pendant quelques instants, Paris et Ménélas disparaissent à la vue de tous. Et lorsque le nuage se dissipe, Paris n'est plus là. Abasourdi, Ménélas frappe dans le vide. Tout le monde cherche le fils de Priam. Nul ne comprend comment il a pu s'échapper. Ménélas va, vient, bouscule les soldats des deux camps. Aucune trace de Paris. Nul ne comprend, sauf les dieux. Héra et Athéna ont tout de suite saisi. Il manque un dieu sur l'Olympe, Aphrodite. La déesse s'est éclipsée et c'est elle qui a fait naître cette brume autour des deux guerriers. Dérobant Paris aux yeux de son meurtrier, elle s'est interposée entre les deux hommes, a soulevé le jeune Troyen et l'a emporté jusqu'à son lit, dans son palais, à Troie. Héra et Athéna écument de rage. Elles désignent la chambre parfumée de Paris, où tous les dieux peuvent le découvrir, sain et sauf, allongé sur son lit. Hélène, prévenue par la déesse, l'a déjà rejoint. Zeus ne bouge pas. L'affaire est claire, tranche-t-il. La victoire revient à Ménélas. La guerre est donc terminée. Aphrodite, lui a désobéi en intervenant en faveur des Troyens. Et si Paris a la vie sauve, il a perdu le combat qui l'opposait au roi de Sparte. Ainsi s'achève une guerre de 10 ans. Et ainsi jubile Zeus, car il a réglé tous ses problèmes sans désavantager aucun des dieux ombrageux sur lesquels il règne, pense-t-il. Héra et Athéna soutenaient les Grecs, qu'elles soient heureuses, puisque leur héros l'emporte. Apollon et Artémis défendaient les Troyens, qu'ils s'en prennent à leur allié, la déesse Aphrodite, puisqu'en dérobant Paris à l'épée de Ménélas, elle est cause de leur défaite. Et que Thétis soit heureuse aussi, puisque son fils Achille ne mourra pas au combat, qui s'achève sans qu'il ait besoin d'y prendre part. C'est alors que Héra se dresse face à Zeus, en proie à une rage sauvage. Derrière elle se place Athéna, et aussi Poséidon, le dieu des océans, qui a compris que Thétis a poussé Zeus à prendre le parti des Troyens et ne supporte pas que son autorité puisse être bafouée par une nymphe. Et Arès, le dieu de la guerre, qui jusque-là ne soutenait que ceux à qui la force des muscles offrait la victoire. En face d'eux, Apollon et Artémis, les jumeaux de l'Olympe, font bloc. Héra invective Zeus. Ce n'est pas la victoire des Grecs qu'elle désire, c'est la ruine de Troie. Qu'il ne demeure plus une seule pierre de la cité qui lui a préféré Aphrodite. Tous les dieux se mettent à accabler le maître de l'Olympe. Héra adresse alors un signe à Athéna. Discrètement, la fille de Zeus quitte l'Olympe. Elle descend vers la plaine et se faufile dans les rangs des Troyens. Athéna est la déesse de la guerre, mais c'est aussi la déesse de la ruse. Puisque Zeus les a tous dupés, alors elle dupera Zeus, les dieux et les hommes. Athéna se met en quête d'un archer. Du meilleur archer parmi les soldats de Troie. Le voici. La déesse lui murmure à l'oreille. Pense à ce que sera ta gloire si tu tues Ménélas. Là, maintenant. Envoûté, l'archer n'hésite pas. Camouflé derrière les boucliers de ses compagnons, il vise le roi de Sparte. Aussitôt, une clameur outrée monte des rangs grecs. Sacrilège. Les Troyens ont rompu leur promesse au moment où Paris, à terre, allait être tué par Ménélas. Le pacte est rompu. Agamemnon n'attendait que cela. Il désigne son frère à terre, blessé, excite l'ardeur de ses guerriers. Et la bataille reprend aussitôt, plus sanglante que jamais. Le combat est sans merci. La journée avance et aucun des deux camps ne semble l'emporter. Sinon Hadès, le seigneur des enfers, qui, lui, fait le compte des morts. Alors, Athéna a une idée. Il faut trouver chez les Grecs un guerrier invincible, capable de faire basculer la bataille. un guerrier aussi fort qu'Achille, qui refuse toujours de participer au combat tant que ne lui sera pas rendue sa captive, Briseis. Un guerrier hors pair. Ajax, le géant qui se bat à coups de masse. Le rusé Ulysse, le roi d'Ithaque. Non. Diomède, le roi d'Argos. De tous les rois venus de Grèce faire la guerre à la cité troyenne, il est l'un des plus jeunes et l'un des plus courageux. Athéna retourne sur le champ de bataille. D'une main, elle effleure le front du guerrier grec. Par ce geste, elle vient de lui accorder un don unique, celui d'être capable de voir les dieux habituellement invisibles aux mortels. En un éclair, voilà Diomède métamorphosé en un taureau furieux. Il sent ses forces décuplées. Et c'est un véritable massacre qui commence. Les uns après les autres, les soldats troyens tombent sous ses coups. Deux des fils de Priam sont à terre. Les Troyens reculent et les Grecs acclament le jeune roi d'Argos. Le voici devant les portes de Troie. Et devant lui se dresse Énée. Énée, fils d'Anchise de Troie. Cousin d'Hector, l'un des meilleurs guerriers troyens. Redoutable au combat. Redoutable, car redouté de tous. On dit qu'il n'est pas seulement le fils du vieil Anchise, mais que ce dernier, du temps de sa splendeur, fut l'amant de la déesse Aphrodite. Et sur Terre comme sur l'Olympe, chacun sait que si Aphrodite soutient Troie depuis le début de cette guerre, c'est autant pour sauvegarder l'union de Paris et d'Hélène, dont elle est l'instigatrice, que pour veiller sur son fils. Son fils unique. Énée part les coups de Diomède. Il résiste à l'assaut furieux du Grec. Diomède est désarmé. Mais voilà qu'il saisit une pierre monstrueuse qui broie la hanche d'Énée. Diomède reprend sa lance et s'apprête à porter le coup fatal. Mais une nouvelle fois, la brume monte depuis le sable rouge de sang. Soudain, Aphrodite, invisible aux yeux des mortels, paraît sur le champ de bataille. Diomède, lui, la reconnaît aussitôt. Aphrodite. Lui, un mortel, contemple en sa splendeur la plus belle des déesses, et il ne tombe pas foudroyé. Aphrodite soulève doucement son fils aîné et l'emporte avec elle loin du tumulte. Elle va disparaître lorsqu'Athéna surgit aux côtés de Diomède. C'est elle qui arme son bras. Le javelot fend l'air et se fiche dans le bras d'Aphrodite. La déesse est touchée. La déesse saigne. La déesse lâche son fils. Énée retombe lourdement sur le sol. Aphrodite, sidérée, est seule, sans défense. Devant Diomède, qui a dégainé son épée et s'avance vers elle, Athéna sur ses pas. Dans un ultime réflexe, Aphrodite serre Énée contre sa poitrine. À nouveau, Athéna arme le bras de Diomède. Il n'a pas le temps de l'abattre sur Aphrodite, car en un éclair, la déesse et son fils ont disparu. Apollon, le dieu de la lumière, vient de les soulever et il les emmène dans les airs. Sur l'Olympe? Non. Au sommet d'une des montagnes qui surplombe Troie, là où se trouve le dieu Arès. Arès a pourtant pris le parti des Grecs, oui. Mais Arès a surtout pris le parti d'Aphrodite. Depuis toujours, le dieu de la guerre aime la déesse de l'amour. Autrefois, ils furent amants. Et leur idylle avait fait l'objet d'un grand scandale sur l'Olympe. Aphrodite montre sa blessure à Arès et lui demande s'il l'aime encore assez pour lui prêter ses chevaux afin qu'elle regagne l'Olympe. Le cœur du seigneur de la guerre chavire. Sur un claquement de doigts, un attelage apparaît et Aphrodite s'élance vers la demeure de Zeus. Mais Arès ne s'arrête pas là. Il rejoint le champ de bataille pour venger Aphrodite. Sa fureur est immense. Son épée abat d'un coup sec et précis chaque Grec qu'elle croise sur son chemin. Personne ne semble voir ce guerrier d'une taille surhumaine. Personne, sauf Diomède. On assiste alors à un geste incroyable. Diomède, avec une téméraire impudence, attaque le seigneur de la guerre. Ce qu'Arès ne sait pas, c'est qu'Athéna, une fois encore, guide son bras. Voici Arès blessé. Pendant quelques instants, le dieu de la guerre, l'invincible dieu de la guerre, promène son regard sur le champ de bataille où règne un désordre indescriptible. Il regarde sa blessure, le sang qui coule sur son armure. Athéna qui le défie du regard. Diomède qui semble n'en plus pouvoir de fureur, puis il s'élance et regagne l'Olympe. Zeus est là. Il a tout vu. Arès avance vers lui. Il lui montre son flanc percé, sa cuirasse en airain, maculée de son sang. Si les mortels font la guerre même aux dieux, cette guerre doit prendre fin. Il faut y mettre un terme. Le maître de l'Olympe ne répond pas. Il fixe Arès. Dans ses yeux, la même surprise muette, la même interrogation. Comment arrête-t-on une guerre ? Arès va répliquer ? Mais il est interrompu par le chant d'une lyre qui monte du camp grec. Étonnés, les dieux se penchent au-dessus des nuages. C'est Achille. Achille, seul devant sa tente, sur le rivage. Achille joue, sourire aux lèvres. La guerre des hommes est devenue la guerre des dieux. Le chaos qui règne entre Grecs et Troyens s'étend désormais à l'Olympe. Tenant chacun un bout, les dieux tirent sur la corde du terrible conflit. C'est un nœud impossible à briser. Arès a été blessé par Athéna, tout comme Aphrodite. Zeus ne peut tolérer pareille situation. dieux et déesses lui ont désobéi. À partir de maintenant, déclare-t-il, quiconque secourra l'un des deux camps sera foudroyé et précipité dans le plus profond des gouffres de l'enfer. Au fond du noir Tartare, au-dessous de la demeure d'Hadès, là où se morfondent celles et ceux qui ont osé défier l'autorité de Zeus. Zeus fixe plus particulièrement son épouse, Héra, et sa fille, Athéna, qui revient à l'instant du champ de bataille. Elles n'ont d'autre choix que d'accepter, elles aussi, la sentence du dieu des dieux. Mais voilà qu'Héra laisse éclater sa rage, interdire aux dieux d'intervenir. C'est favoriser les Troyens. Car sans le secours des dieux et privés de leur meilleur guerrier, Achille, les Grecs ne peuvent espérer l'emporter. Arès, galvanisé par la colère de sa mère Héra, demande à Zeus, sur un ton de reproche, combien de temps encore il tolérera que sa fille Athéna manipule les hommes pour s'en prendre aux immortels. Il accuse Zeus de protéger sa fille préférée, au prétexte qu'il l'enfanta lui-même. Zeus rabroue vertement Arès. Il lui ordonne de quitter l'Olympe et de se rendre auprès d'Asclépios, le dieu guérisseur, pour y soigner ses blessures. Il menace le dieu de la guerre d'un séjour aux enfers s'il ose encore s'exprimer. Puis, le dieu des dieux monte sur son char, saisit son fouet, frappe ses chevaux au pied d'airain et s'élance entre ciel et terre. Nul ne sait où il se rend, ni ce qu'il trame. Mais, à voir l'expression de son visage, il est clair qu'il n'a nullement l'intention de se cantonner au rang de simple spectateur. Arès a rejoint Asclépios, qui vit non loin de Troie. Le dieu guérisseur est fils d'Apollon. Deux de ses fils ont pris part à la guerre contre les Grecs et sont déjà tombés sous les coups du redoutable Achille. En envoyant Arès auprès d'Asclépios, Zeus se doutait que le dieu de la guerre, à peine soigné, rejoindrait subrepticement le camp des Troyens. Il ne s'est pas trompé. Arès entend se venger d'Athéna et de son père. Quand bien même son destin serait d'être frappé par la foudre de Zeus, d'être couché avec les morts. Arès se place derrière Hector et lui souffle sa flamme. Hector, à la tête de ses cavaliers, reprend l'offensive et rapidement, les Grecs battent en retraite. Même le terrible Diomède semble épuisé par l'assaut qu'il a si courageusement mené. Et jusqu'à la nuit tombée, les Troyens acculent les soldats d'Agamemnon au rivage, tout près de leur navire. Un vent triste souffle sur le campement grec. Ni vainqueur, ni vaincu. Le vieux Nestor observe la construction d'un mur entre la plaine de Troie et le rivage. Il encourage ses soldats. Ce mur doit être achevé avant l'aube. Décidément, cette guerre, plus encore que celle qu'il a pu connaître par le passé, est imprévisible. Une fois de plus, la fortune a changé de camp. Alors que la veille, les Troyens pliaient sous les coups du jeune Diomède, les voilà maintenant qui dominent la bataille. Leurs attaques sont de plus en plus pressantes. Nestor a bien fait d'ordonner la construction de cette muraille. Car si l'ennemi atteint les bateaux, rien ne l'empêchera d'y mettre le feu, et plus un seul Grec ne reverra sa patrie. Un homme vient de franchir le seuil du palais de Priam. Il marche lentement. Son grand âge l'oblige à s'appuyer sur une canne. Il s'appelle Anténor. C'est le beau-frère du roi. Après s'être incliné devant le souverain, il jette un rapide coup d'œil sur ceux qui sont présents. Paris, Priam, Hector, Hécube. Et dans un coin, Cassandre. Le vieil homme vient une fois encore demander que l'on rende Hélène à son époux et que l'on verse aux Grecs tous les tributs qu'il réclame. Il ne fait que porter la parole du peuple. Ce peuple de Troie, qui depuis 10 ans résiste aux Grecs, est épuisé. Des veuves et des orphelins, voilà le royaume sur lequel Priam règne désormais. Tant de glorieux héros ont rejoint la terre des morts. Mais cette fois-ci, c'est Hector qui s'y oppose. Nul besoin de rendre Hélène à Ménélas. Les Troyens ne sont-ils pas en train de l'emporter ? Les Grecs ont le dos à la mer. Leurs navires sont à portée de flèche. La victoire n'est pas loin. Anténor fait remarquer que cela fait 10 ans que la victoire n'est pas loin. Elle penche au gré de l'humeur des dieux. Tantôt du côté grec, tantôt du côté troyen. Le terrain gagné à l'aube est perdu au crépuscule. Paris, offusqué, réitère son refus de rendre Hélène. Anténor évoque à nouveau l'intérêt du peuple. Hector réclame davantage de cavaliers pour harceler les Grecs. Priam a l'air perdu. Tandis que les hommes jouent à la guerre, deux femmes s'éclipsent discrètement, la reine Hécube et sa fille Cassandre. Cassandre possède l'art de prédire l'avenir. Mais parce qu'elle a refusé les avances d'Apollon, le dieu de la lumière l'a condamnée à n'être jamais crue par personne. Cassandre l'a vu. Si Paris ne rend pas Hélène à Ménélas, alors Troie brûlera. Et sa mère le sait. Mieux que personne. Hécube ne peut pas avoir oublié la sinistre prophétie que sa propre fille lui révéla jadis. Peu de temps avant de mettre au monde Paris, elle avait vu sortir de son ventre une torche qui embrasait la ville entière. Cassandre affirma aussitôt que l'enfant à naître serait la cause de la ruine de Troie. Le maître à mort s'imposait si l'on voulait préserver Troie. Nul ne l'avait cru. Hécube et Priam, effarés, accusèrent Cassandre de ne pas aimer son nouveau frère. Ils mirent sur le compte de la folie ce soudain accès de cruauté. Hécube, toutefois, vécut dans le trouble l'adolescence du beau Paris. Lorsqu'il fut en âge de porter les armes, elle trouva tous les prétextes pour l'éloigner de Troie, par précaution. Bien sûr, elle ne croyait pas aux prophéties de Cassandre, mais elle avait bien vu cette torche enflammer sa cité. Au fond d'elle-même, Hécube sait que Cassandre n'a pas tout à fait tort. Le choix de Paris est cause de bien des malheurs pour les Troyens. Un vent terrible se met soudain à souffler le long du mur construit par les Grecs. La mer et le ciel, jusque-là si calmes, sont déchaînés. Il faut bouger les tentes, déplacer le campement loin des flots tumultueux. Nestor rejoint Agamemnon et Ulysse. Ils ont compris. Dans leur hâte à bâtir ce mur pour contrer les assauts troyens, les Grecs ont oublié de sacrifier aux dieux qui érigent les murailles. Poséidon. Lui, le bâtisseur de l'invincible muraille de Troie, ne peut supporter que de simples mortels construisent un mur, sans même honorer son nom. Poséidon a été offensé. Les trois rois blêmissent. Ils savent combien le dieu de la mer et des océans est ombrageux. Il punit tous ceux qui oublient de sacrifier à son culte. Dans le camp des Grecs, c'est la débâcle. Contre la colère du dieu au trident, il n'est de salut possible. Les plus farouches soldats tombent à terre, implorent la clémence du dieu marin. C'est le moment que choisit Hector. À la tête de ses cavaliers, il déferle sur le camp des Grecs. Les Troyens semblent mus par une force invincible. Et chaque fois que leurs ennemis tentent de résister, une série d'éclairs les foudroie. La muraille qui sépare la plaine des nefs n'est plus très loin. Bientôt, les navires seront à portée de flammes des archers d'Hector et la flotte grecque sera perdue. Dans la mêlée, le vieux Nestor tombe à terre. Il est blessé. Il n'y a personne pour lui porter secours. Diomède, le jeune roi d'Argos, se précipite vers Nestor et le hisse sur son char. Il s'élance avec une telle fougue qu'il est sur le point de repousser les premiers cavaliers troyens. Mais une nouvelle série d'éclairs frappe ses chevaux, qui se cabrent et le précipitent à terre, lui et le vieux Nestor. Par trois fois, Diomède remonte sur son char, fait volte-face et se présente devant le fils de Priam. Par trois fois, l'éclat du tonnerre le rejette en arrière. Assis au sommet du mont Ida, Zeus contemple la scène. Il a vu Arès se glisser derrière Hector. Et aussi Poséidon, écumé de rage, et frappé le sol de son trident afin de provoquer le tonnerre et le raz-de-marée. Il ne dit rien. Qu'importe si son fils et son frère, une fois encore, bravent son autorité. Car il tient entre les mains une balance d'or qui semble l'amuser beaucoup. Cette balance d'or, c'est celle du destin. Sur chacun des plateaux se trouve une figure de la mort. L'une représente les Troyens, l'autre les Grecs. Or, c'est celle des Grecs qui penche vers la terre, tandis que celle des Troyens s'élève vers le ciel. Et dès que les Troyens faiblissent, Zeus, d'un souffle, redresse le balancier et les Grecs battent en retraite. S'il a interdit aux dieux de prendre parti dans la guerre de Troie, c'est pour mieux servir ceux dont il veut la victoire. Ce qui importe à Zeus, à ce stade de la guerre, c'est de respecter la promesse faite à la mère d'Achille. Les Troyens l'emporteront sur les Grecs. Jusqu'à ce qu'Agamemnon présente ses excuses aux héros humiliés. La nuit tombe. Les deux armées doivent cesser le combat. Sous sa tente, entouré de ses compagnons, Agamemnon ne cache plus son inquiétude. Le songe que le maître de l'Olympe lui a envoyé était mensonger. Il lui avait promis qu'il allait conquérir Troie. Et voilà qu'il le couvre de honte à la tête d'une armée en lambeaux. Zeus l'a trompé. Il ne reste plus qu'à reprendre la mer et regagner la Grèce. Tout est fini. On ne se bat pas contre le roi des dieux. Ajax, Ulysse, Ménélas, tous les rois fixent le sol dans un mutisme total. Ce n'est qu'après un long moment que la voix de Diomède s'élève. Si Agamemnon songe vraiment à rentrer en Grèce, eh bien qu'il parte, et que ceux qui le souhaitent partent avec lui. Nul ne les retiendra, mais lui, le jeune roi Diomède, restera. Et il y en aura sûrement d'autres pour se rallier à lui. Ils se battront jusqu'au bout, jusqu'à la prise de Troie, ou jusqu'à leur propre mort, sous les coups de la foudre divine. Le vieux Nestor approuve. Il y a une solution pour sortir de l'impasse dans laquelle les Grecs se sont fourvoyés. Nestor prononce le nom que tous ont au bord des lèvres, mais que nul n'ose articuler. Achille. L'heure est venue pour Agamemnon de réparer l'outrage qu'il a fait subir aux héros. En lui enlevant Briséis, cette jeune fille qu'il considère comme la récompense de sa bravoure au combat, il a provoqué le retrait d'Achille. Sous sa tente, Achille attend, irrité contre son propre camp, que le roi des rois revienne sur sa décision et lui présente ses excuses. Agamemnon comprend. Voilà d'ailleurs bien longtemps qu'il a compris. Sans Achille et son armée, les fiers Myrmidons, les Grecs n'ont aucune chance d'inverser le cours de la guerre. Il déteste cette idée, mais il n'a plus le choix. La mort dans l'âme, il annonce qu'il est non seulement disposé à rendre Briséis, mais à combler Achille de présent. Tous saluent la décision du roi de Mycène. Pour la porter au fils de Thétis, Agamemnon désigne Ajax et Ulysse. Achille est là, sous sa tente, allongé sur des coussins. À ses côtés, Patrocle, son fidèle ami. Surpris, Achille pose sa lyre. Il se lève et interroge les deux rois sur la raison de leur visite. C'est Ulysse qui prend la parole. Il sait que si Achille ne se résout pas à calmer la colère qui l'anime, il regrette en son cœur le tumulte de la bataille. Alors, Ulysse décrit à Achille la tragédie que vivent les Grecs depuis qu'il s'est retiré du combat. Hector, qui semble invincible. La flotte, qui risque d'être incendié, la fin qui approche. Il marque une pause et, encouragé par le silence d'Achille, il lui transmet l'offre d'Agamemnon, énumérant tous les présents que le roi des rois dépose à ses pieds si le héros accepte de revenir se battre à leur côté. Achille acceptera-t-il de dompter sa grande colère? Le silence retombe. Ulysse fixe Achille. Les cœurs sur cette partie de la terre battent plus fort. Achille acceptera-t-il ?